Alors, à l'instant, s'il y a trois conditions au ciel qui caractérisent le ciel, c'est les conditions d'unité, d'être en lien avec le tout et ne plus avoir un sentiment d'être séparé de quelque chose. Un sentiment d'unité, alors dans un état de séparation, il y a un sentiment d'isolement et d'abandon qu'on appelle la particularité, où je suis toujours à la recherche de me valoriser et de prouver l'importance de moi pour atténuer le sentiment qu'en fait je ne sais plus du tout qui je suis. Si dans cet état que nous appelons le ciel, il y a unité, il y a aussi un sentiment de plénitude, il ne manque absolument rien. Dans l'état de séparation, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de choses. Donc, je vais courir après des choses pour essayer de pallier et atténuer ce sentiment de manquer. Et la troisième condition dans l'état du ciel, c'est une condition d'innocence et de perfection. Alors que dans l'état de séparation, nous avons une impression que de manquer de cette innocence, justement, et un sentiment de faute ou de défaut. Si l'état de perfection, c'est un état d'unité et de plénitude, ici, dans l'état de séparation, c'est un état caractérisé où nous ressentons ces sentiments très puissants. J'ai perdu votre image, mais ce n'est pas grave. Vous m'entendez? D'accord, j'ai perdu votre... Ah, vous avez perdu mon image aussi.
Non, on te voit sur l'écran de contrôle, donc c'est chez toi le problème.
Oui, nous sommes en bas là.
Vous me voyez?
Oui, et on se voit, on t'entend et on te voit. Chez vous, ça va?
Ben écoutez, on continue pour l'instant, je verrai après. Alors que dans le ciel, unité, plénitude, et perfection, innocence. Ici, nous connaissons la particularité, une particularité extrêmement fragile. Nous connaissons le manque et nous connaissons un état d'imperfection. Dans cet état d'imperfection, il y a une idée qu'il faut toujours, toujours rattraper quelque chose. Il y a toujours une sorte de problème et je suis au cœur de ce problème. L'idée de culpabilité vient parce que quelque part, je constate, je sens, je sais qu'il y a un problème quelque part et je pense que j'en suis responsable. En fait, j'en suis responsable, mais j'en suis responsable uniquement dans le sens que c'est moi qui ai choisi cette histoire, cette condition de séparation. Mais une fois que j'accepte que la condition de séparation est véridique, je vais pas supporter l'idée que c'est moi qui a détruit en quelque sorte le ciel, la perfection, le foyer de l'amour absolu. Je ne supporte pas l'idée que c'est moi qui est responsable pour la destruction de cette fabuleuse condition d'amour. Et surtout parce que je crois que c'est vrai, cette destruction. Pour que j'accepte que la séparation est réelle et mon individualité est par la suite réelle, je dois imaginer que j'ai réussi cette séparation et cette réussite et cette séparation est au prix de la réalité d'un amour absolu. Alors, j'intègre ça comme si j'ai détruit cet magnifique état d'amour. Et je me sens accablé d'un sentiment de culpabilité, de responsabilité, mais une responsabilité avec toutes les nuances de négativité qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça qu'on considère que la culpabilité est le point d'ancrage de la particularité. C'est le sentiment de culpabilité qui m'empêche de voir qu'en fait, il ne s'est rien passé. C'est parce que tant que je veux que la séparation ait eu lieu, je vais vouloir garder ce sentiment de culpabilité. Parce que la culpabilité dit, tu l'as réussi, tu l'as fait. Tu as réussi ton coup de séparation. L'instant que je ne veux, que ça ne m'intéresse plus d'être séparé de la totalité, je vais revenir sur cette question de culpabilité et je vais me dire, mais est-ce que tu es absolument sûr de ton coup que tu es véritablement séparé dans l'esprit, en parlant bien sûr dans l'esprit, de toute chose? Mais s'il y a la moindre partie de moi qui n'est pas encore sûr qu'il veut revenir en arrière et mettre en question ses principes, je vais garder ce sentiment d'avoir mal fait, et terriblement mal fait. Maintenant, ce sentiment de mal-être où je mets en question de la façon la plus puissante et de la façon la plus destructrice ma qualité, parce que je pense au fond que je suis un criminel, je suis un meurtrier, je suis un assassin, l'assassin du ciel, ce qui est totalement impossible. Le ciel ne peut pas être détruit. Mais dans mon délire, je peux penser que je l'ai effectué. À ce moment-là, je considère que je suis un criminel, une sorte de meurtrier cosmique. Ce sentiment d'avoir mal fait est tellement puissant que je ne vais pas m'autoriser à en faire face, à le ressentir, à l'appréhender, à savoir que j'ai ce sentiment tellement puissant en moi. Néanmoins, il sera là, quelque part, toujours dans mon esprit, et il va ressortir de plusieurs façons. Kenneth nous dit que ce genre de culpabilité, ce qu'il appelle culpabilité ontologique, qui est rattachée à ce qui veut dire, ce n'est pas tout à fait existentiel, ontologique veut dire que c'est rattaché à mon sentiment d'exister. Le simple fait que je pense exister ou dépendre du ciel me remplit de ce sentiment de culpabilité ontologique qui est la fondation de mon être. Nous n'allons pas forcément ressentir cette culpabilité en tant que telle. Nous allons juste ressentir de la souffrance d'un état d'imperfection ou de défaut, de ne jamais être à l'auteur, de ne jamais pouvoir faire face aux défis de la vie, de ne jamais être aussi pur et bon que ce qu'il faut dans la vie, de devoir rendre compte, de devoir s'expliquer, de devoir se défendre, de devoir se justifier auprès des autres, de toujours se demander si quelqu'un va nous mettre en question ou en cause, de toujours douter par rapport à notre qualité, de toujours redouter que quelqu'un va nous critiquer et de prendre mal les réflexions des autres. Tout ceci est un signe de qui traîne au fond de nous cette culpabilité ontologique qui nous fait douter de notre qualité parfaite. À savoir que la qualité parfaite se rattache pas à mon individualité, mais à mon être pur, la partie de moi qui fait partie de cet magnifique ensemble que, dans le langage symbolique du cours, on peut appeler le Christ ou la filialité, et dans d'autres traditions, on peut appeler la nature du Bouddha, le soi du Bouddha, etc. Donc, cette culpabilité, nous n'allons pas forcément le ressentir comme ce qu'on appelle couramment la culpabilité. C'est-à-dire, j'ai oublié d'appeler ma mère ou mon père ce week-end, comme j'ai promis, j'ai oublié de passer chez eux ou j'ai pas voulu passer chez eux. Ou la culpabilité de ne pas avoir rendu un travail à temps, ou un projet dans la qualité qu'il aurait fallu, où je n'ai pas été de la plus grande honnêteté avec des clients ou dans l'entreprise, etc. Ça, c'est juste vraiment le sommet de l'iceberg de cette question de mal-être. Mais c'est un point de départ. C'est un point de départ parce que ça nous aide à ressentir cette capacité en nous de nous mépriser. S'il y a du mépris en nous, pour les autres ou pour nous-mêmes, ça c'est une indication de ces culpabilités. Parce que le mépris veut toujours dire qu'il y a un problème, il y a une faute, il y a quelque chose de grave pour lequel quelqu'un est responsable. Et ce problème pour lequel quelqu'un est responsable, au fond, c'est toujours cette cette séparation, cette destruction du ciel pour lequel je refuse d'être responsable. Je refuse quand je refuse d'en être responsable, je mets la responsabilité sur le compte des autres, je les méprise, je les trouve méprisables, je trouve un problème chez eux, je trouve qu'ils ne sont pas acceptables, je ne leur accorde pas mon approbation. Si je prends responsabilité pour cet terrible échec quelque part dans l'existence ou dans ma vie personnelle, mais je ne vois pas au-delà pour retrouver le pardon, et parce que dans le pardon du cours, on pardonne d'une façon tellement absolue que ça enlève le problème. Ça efface les effets du problème. Il ne s'est rien passé. Si je ne veux pas faire cette deuxième partie, la première partie, c'est là où on peut commencer à parler aussi du pardon. Parce que c'est le pardon qui défait la culpabilité. La première étape, c'est de savoir à chaque instant, à l'instant que je ressens l'envie de critiquer d'autres personnes ou de mépriser d'autres personnes, je dois essayer de prendre responsabilité pour mon mal-être, pour ce malheur que je ressens, et dire non, quelque part, ce n'est pas l'autre personne qui est responsable pour ce que je ressens. Quelque part, j'ai fait quelque chose, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui me rendent malheureux. Et la décision de base que j'ai faite, c'est de me séparer de cette magnifique présence d'amour qui est présente avec moi chaque instant. Et dans le langage du cours, cette présence s'appelle prendre le nom de Jésus ou du Saint-Esprit. Mais on peut bien sûr utiliser n'importe quel symbole pour une magnifique présence d'amour. À l'instant que j'ai dit non, je ne ressens plus la proximité, l'intimité de cette magnifique présence qui voudrait m'accepter dans son sublime étreinte. Je vais me sentir coupé, je vais me sentir coupable. Je ne vais pas supporter ce sentiment, donc je vais prétendre que c'est les autres, je vais vouloir présenter mon malheur comme si c'est les autres qui en sont responsables. Donc la première étape du pardon, c'est de dire non, il faut que j'arrête avec cette bêtise de toujours penser que c'est les autres qui me font souffrir de cette façon. Je souffre déjà. Mais je souffre à cause de cette coupure, cette scission avec cette présence d'amour qui est quelque part à côté de moi. Je prends responsabilité. Mais maintenant, il y a une étape très très importante après. La première étape, c'est prendre responsabilité. Mais la deuxième étape est très importante. Sinon, si on ne prend pas cette deuxième étape qui est tellement importante, on va rester avec la culpabilité et on va se culpabiliser et on va se mépriser et on va s'en vouloir. Et on ne va pas récolter ce magnifique sentiment, ce magnifique sentiment de bienfait, d'innocence, de pureté, de relâchement et d'évasion et de liberté qui m'est offert par ce processus de relâchement, de libération. Et ce processus consiste à regarder ce que je pense avoir fait et dire non, je ne l'ai pas fait en réalité. Je pense avoir balayé et détruit la présence de l'amour de ma vie et de la vie des autres. Et je veux accepter maintenant cette information qui vient d'ailleurs, qui m'est partagée, qui dit non, tu n'as pas fait cette chose horrible que tu penses avoir fait. Et c'est à l'instant que j'accepte cette innocence sur un autre plan. Ça ne veut pas dire que sur le plan le plan terrien ici, le plan matériel, que je n'ai pas fait des choses. Mais j'accepte sur un arrière-plan que n'importe ce que j'ai fait, je n'ai pas écarté et détruit la présence de l'amour, de l'existence, de mon existence, de l'existence en général, et ni de l'existence d'autres personnes. même si je leur ai fait mal sur le plan ici, il y a toujours cette présence d'amour qui est disponible, qui est une actualité pour moi et pour eux. Et c'est uniquement quand j'accepte cette deuxième étape que je vais ressentir les bienfaits de cette troisième étape, qui est la véritable présence de l'amour qui revient dans mon esprit. Ça c'est très brièvement la culpabilité et aussi les différentes étapes du pardon. Et il y avait peut-être cette question, pourquoi est-ce que je ne ressens pas la culpabilité forcément telle que...
Oui, c'était Thérèse qui se demandait cette question et effectivement ça répond à ce que...
C'est-à-dire, Kenneth nous disait que la culpabilité est n'importe quel sentiment de souffrance, absolument n'importe quel sentiment de souffrance. La culpabilité est juste une sorte de façon de parler très globalement de l'ensemble de tous ces sentiments négatifs. S'il y a le moindre sentiment négatif, que ça soit peur, solitude, défaut, honte, agressivité, c'est ça la culpabilité, parce que sans la culpabilité, nous reviendrons à l'intérieur pour retrouver la présence de l'amour et notre véritable identité parfaite. Sans la culpabilité, il n'y a que la culpabilité qui nous empêche de le faire.
Donc c'est ça, c'est l'obstacle finalement, c'est tous ces sentiments négatifs en fait, pour le dire avec d'autres termes, qui nous empêchent de nous connecter à l'intérieur, quoi, à la paix intérieure en fait.
La culpabilité est une fausse barrière. C'est une fausse barrière qui est là pour nous empêcher de voir la lumière ou l'amour en nous. Mais la culpabilité en tant qu'un nuage ne semble pas être juste un petit filet de brume, mais semble un gros nuage d'orage. Et alors ça semble tellement noir et tellement horrible que nous ne regardons pas à l'intérieur pour en faire face. J'ai tellement l'impression, j'ai tellement la conviction d'être une chose horrible, que je n'ose même pas regarder pour voir que ce n'est pas un gros nuage d'orage. C'est juste un petit filet de brume qu'on peut écarter avec les mains comme ça. Mais tellement ça semble énorme, et j'en fais toute une histoire de ce que je pense être, que j'entretiens dans un sens, inconsciemment j'entretiens, cette idée que je suis une chose horrible, donc il ne faut pas que je regarde. Et je me donne le droit de dire que ce n'est pas moi la personne horrible dans cette vie, c'est les autres. Je me donne le droit. Voilà.
Ça pouvait être que ça, hein. C'est en eux, c'est pas du tout.
Oui.
Ils ne sont pas là.
Non,
mais je sais, mais je crois que la culpabilité qu'on ressent soi-même est énorme. En tout cas.
C'est que...
Plutôt de dépasser la culpabilité, enfin de me pardonner à moi que de pardonner aux autres.
Non, c'est l'un des piliers de l'enseignement et de la méthode de Kenneth Wapnick, c'était l'idée de l'universalité. L'universalité, c'est que je ne peux pas contenir quelque chose qu'une autre personne ne contient pas, une autre personne ne peut pas contenir quelque chose que je ne contiens pas. Tout est universel. C'est totalement impossible qu'une autre personne soit autre que comme je suis et vice-versa. Parce que le principe d'unité tient ici, aussi bien ici qu'au ciel. C'est pour ça qu'il disait que l'unité, on ne peut pas ressentir ici sur terre l'unité au ciel. Mais ce que nous pouvons ressentir, c'est l'universalité. L'unité au ciel, c'est là, c'est dans cette expérience d'unité au ciel. Encore, au ciel, le ciel, c'est un terme symbolique pour dire dans l'abstraction parfaite de la pensée dans sa forme la plus pure, dans son aspect le plus pur. Notre vrai chez nous, notre vrai foyer, notre vraie demeure spirituelle. une fois que nous atteignons cet endroit, il n'y a plus d'idée de soi-même par rapport à nous avec un N majuscule, par rapport à l'ensemble avec un E majuscule. Ça c'est quand on atteint la prise de conscience, la conscience de l'unité. C'est extrêmement rare que nous, les petits êtres que nous sommes, que nous avons cette prise de conscience ici sur Terre, parce qu'il y a toujours une idée d'individualité, de séparation, tant que nous sommes toujours sur Terre. Mais par contre, la façon dont nous pratiquons l'unité réelle sur Terre, c'est par la perception de l'universalité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas voir que nous sommes tous un, mais par contre, nous pouvons voir que nous sommes tous pareils. Nous ne pouvons pas voir que nous sommes tous un, mais nous pouvons voir que nous sommes tous pareils. Et c'est ça le début de la disparition des différences entre moi et les autres, entre les autres et moi. Je regarde chaque différence à laquelle je donne une importance, une certaine importance, en laquelle j'investis une certaine importance, et je dis, non, je dois avoir tort. Je ne peux pas avoir raison si le principe d'universalité est juste. Quelque part, nous sommes toujours le même être. En tant que le même être, n'importe quelle qualité qui est démontrée par une autre personne, qui est vécue par une autre personne, quelque part, je dois avoir aussi cette même qualité. Si c'est une qualité positive, je l'ai aussi. Si c'est une qualité négative, je l'ai aussi. Il n'y a qu'un être ici en train de se manifester avec plus de, avec 7 milliards de visages, à peu près. Ça me fait le plus grand bien à mon être le plus profond, à essayer de chercher toutes ces distinctions en lesquelles j'ai investi beaucoup d'importance et me dire non, je ne peux pas avoir raison. Je ne peux pas avoir raison que cette personne est si différente de moi. Quelque part, je dois être comme cette personne. Quelque part, je dois avoir les mêmes graines de possibilité de faire la même chose que cette personne. Même l'être le plus qui a fait les choses les plus immondes et les plus cruelles, quelque part en moi, je dois contenir cette même capacité de voir les autres comme mes ennemis et non pas comme mes frères, et de vouloir leur faire du mal et non pas leur faire du bien. Je dois avoir cette même capacité en moi. Et si je gratte, je peux trouver ce fond en moi où je contiens la même haine, le même mépris pour les autres, le même manque de respect pour les autres, je peux le trouver. C'est mon investissement dans la culpabilité qui va m'empêcher de faire ça. Parce que plus je gratte pour voir comment je suis comme l'autre, plus je risque de le trouver. Et c'est là le petit filet de brume va prendre les dimensions d'un grand nuage d'orage. Et je vais prendre peur à ce nuage de haine et de mépris qui est en moi. Et je vais dire, mon Dieu, c'est pas possible, je peux pas avoir ça. Et je ferme tous les passages et toutes les possibilités de prise de conscience et je dis, non, il faut pas que j'aille par là. Je vais écrouler sur mon propre dégoût de moi, mon propre mépris ou la propre peur que j'ai de moi-même. Et je ferme les barrières et il y a un risque à ce moment-là de mettre tout ça sous le tapis de la conscience et de continuer à vouloir être spirituel, à vouloir se présenter avec sa plus belle face et prétendre être bon et pur avec l'effet malheureux de continuer insidieusement à juger les autres et à mépriser les autres pour leur faiblesse. Et à dire aux autres, je ne comprends pas comment tu n'arrives pas à voir la sainteté. Moi, j'arrive à voir la sainteté, mais je ne comprends pas comment toi, tu n'arrives pas à le voir. Tu vois, ça c'est le genre de choses qui peut arriver. Ou je ne sais pas pourquoi tu manques tellement de discipline. Moi j'y arrive, je comprends pas. D'accord. J'arrive à la discipline, j'ai pas de problème pour discipliner mes pensées et tout ça, mais moi tu dis tu peux pas, etc. Et je comprends pas. Et insidieux, et sur, c'est assez insidieux ma façon de faire une distance et de dire qu'il y a un problème. Oui, et le problème c'est chez toi, c'est dans ton manque de discipline, ton manque de ceci, cela. Et chaque petit brin de volonté, d'envie, chaque petit brin d'envie de faire une distinction entre moi et un autre, ça vient de ce manque d'envie de voir mes faiblesses et ma culpabilité. Et alors je reviens vers vers le renforcement de ma particularité, et j'ai dit de toute façon c'est pas un problème en moi, c'est un problème chez les autres. Moi j'ai franchi cette étape et je l'ai mis bien derrière moi maintenant. Et c'est comme ça qu'on arrive à penser qu'on fait bien ce cours, et tout ce temps je garde sur un arrière-plan une bonne quantité de peur de ma culpabilité, et je n'ai pas encore transformé ce nuage noir en petit filet de brume. Si j'accepte que oui, je peux avoir les mêmes horreurs en moi que n'importe qui, je regarde les infos et je recueille ces informations que je vois à la télé avec dégoût, avec horreur, avec peur, avec tristesse et chagrin. Et je me dis, sur un plan très sincère et très profond, quelque part, je fais partie de cet être qui est capable de faire ça. Je dois avoir ces mêmes qualités, ces mêmes capacités en moi. Je fais face et je dis, sur un certain plan, oui, c'est grave, mais sur un autre plan, ce n'est pas si grave que ça, parce que la présence de l'amour est toujours là. L'amour est toujours présent. Et l'amour a effacé tous les effets négatifs de ce que fait l'homme dans sa vie séparée. L'amour efface tous les effets de ce que nous sommes capables de faire ici sur ce plan. Et c'est là le vrai basculement, la vraie transformation du cours, c'est ça. À ce moment-là, quand on regarde très très clairement en face toute la destruction et l'horreur dans la vie ici, et nous basculons sur un autre plan, et nous comprenons que ce que nous voyons autour de nous, c'est les effets, c'est le résultat d'une confusion énorme par rapport à la réalité. L'homme fait ce qu'il fait parce qu'il est extrêmement confus, et sa confusion l'a rendu malade. Mais au-delà de sa confusion, au-delà de cette maladie et au-delà de ce monde, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Ceci n'est pas le monde réel. Ce n'est pas la réelle dimension de la réalité. Il y a une autre dimension où tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé ici n'existe plus. C'est ce que nous devons nous dire comme, ça c'est le cadre, ça c'est la structure de pensée pour pouvoir guérir et transformer nos sentiments tellement douloureux ici, et pour faire face à ce que nous sommes devenus, pour pouvoir apprendre que nous ne sommes jamais en réalité devenus ce que nous pensons être. Nous devons d'abord faire face à ce que nous pensons être pour pouvoir apprendre ce que nous sommes. Le seul truc, c'est que ce que nous sommes n'existe pas dans ce monde ici réellement en tant que des choses réelles. Et c'est là où ça coince. C'est là où on prend peur. Là où c'est difficile. Le premier niveau de difficulté, c'est de faire face à ce nuage noir de culpabilité qui est en réalité juste une filet de brume. Ça, c'est la première chose. On reste devant ce grand nuage noir de culpabilité, pensant que c'est trop horrible, on ne peut pas le traverser. On prend la main de l'amour, la main de Jésus. Il dit, n'aie pas peur, viens avec moi. Je vais te montrer que ce n'est pas si horrible que ça. Le seul problème, c'est que quand il nous fait traverser le nuage de culpabilité, il nous emmène vers un autre monde. Et vers cet autre monde, le moi que j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé si important, n'est pas si important. Dans la présence de l'amour, moi, je perds de l'importance. Parce que dans l'amour, il n'y a plus cette idée d'individu distinct. Je ne suis plus tout à fait moi-même dans la présence, dans ce monde d'amour. Je ne suis plus tout à fait, je ne suis pas Bernard avec son histoire, avec ses sensibilités, son enfance, ses maltraitances, ses histoires d'abus, d'injustice, etc. Ça, ce Bernard-là n'existe pas dans le monde pur d'amour. Alors quand je prends la main de Jésus et je veux traverser le nuage noir, je dois aussi savoir, je vais perdre une partie de mon histoire personnelle. Hein? Et une partie de moi saute de joie. Il dit, mais c'est fabuleux, mais c'est excellent. Mais tu imagines, je n'ai plus besoin de garder cette partie de moi, avec plein de taches de noirceur et de chagrin et d'injustice et tout ça. C'est absolument fabuleux. Je peux m'en débarrasser comme une vieille carapace, un costume toute vétuste et désuet. Et là, j'avance vers la lumière, la symphonie de l'être, la symphonie céleste. C'est absolument fabuleux, c'est excellent. Et je vais chanter avec les anges ce chant pur de bonheur et de joie. Mais c'est exquis. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a une partie de moi qui n'est pas sûre absolument que c'est ce qu'il veut faire. Il n'est pas tout à fait sûr. Il y a une partie de moi qui dit, tiens, mais c'est une belle promesse. Mais... quelque part, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord d'abandonner absolument tout de mon petit être. Il y a quelques petits aspects. Après tout, j'ai mes petits plaisirs dans cette vie ici et j'ai investi quand même une certaine importance dans mon rôle en tant que bénévole, en tant que... j'ai pas dit ça exprès. J'investis une certaine importance dans mon rôle en tant que mari, en tant que femme, en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'enfant. J'ai quand même, je ne sais pas si je veux me débarrasser d'absolument tous mes rôles et de toute l'importance que différentes situations me donnent dans cette vie. Et c'est là où ça coince. Et c'est là où véritablement il y a c'est ça la magnifique section dans le cours qui est la peur de la rédemption. Si jamais vous avez envie de vous amuser un petit peu, vous lisez cette section et vous allez comprendre qu'il y a deux niveaux de peur. Et ce n'est pas le premier niveau de peur, la peur de la culpabilité, de voir que je suis comme les autres. C'est là où je m'arrête absolument. Ça, c'est le premier niveau de peur ou de barrière ou d'empêchement. Ce n'est pas vraiment celui-là qui me gêne le plus. C'est en dessous, c'est quand j'entends l'appel de l'amour. J'ai peur que je vais suivre l'amour à sa destination. Et à ce moment-là, mon petit soi sera perdu. Dans le nuage de culpabilité, ça ne me gêne pas tant que ça, parce que dans le nuage de culpabilité, j'ai toujours un soi. D'accord, j'ai un soi, plein de taches de noirceur, plein de culpabilité, il est horrible. Mais j'ai bien l'habitude, ça ne me gêne pas plus que ça. J'ai bien l'habitude. Oui, je prétends, j'aimerais bien être parfait ici, mais personne n'est parfait, d'accord. J'ai mes petites imperfections, j'ai même mes grosses imperfections. Je m'en fous. Tant que c'est mes imperfections, j'ai toujours un sentiment d'être moi-même avec mes histoires, avec mes imperfections. Et mon Dieu, c'est mon droit d'avoir mes imperfections, d'être rempli de noirceur, si je veux bien être comme ça. Et personne ne peut m'empêcher. Ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni Dieu, je m'en fous.
Tu le fais bien quand même.
Je peux être très très obstiné. D'accord.
Ouais. On se reconnaît aussi.
Et c'est là où quand on commence à soupçonner la présence de cette noirceur et de cette culpabilité et on en prend un peu peur, on peut se rassurer que ce n'est pas vraiment de ça qu'on a peur. Oui, c'est horrible. Oui, ça ne fait pas plaisir. Mais au fond, on en fait une grande histoire parce qu'on sait que en dessous de cette noirceur, en dessous de cette façon d'être, cette façon de faire, il y a tout de même une présence d'une douceur tellement immense et tellement universelle que je serais vraiment tenté de le suivre. Si je voyais très clairement toute la noirceur en moi, je dirais à un certain moment, mais enfin, c'est absurde, pourquoi je voudrais garder autant de noirceur quand il y a cette magnifique belle lumière à côté? Et c'est à ce moment-là, je risque d'être perdu. Je risque de perdre les années de travail. Mes années de travail sur mon petit être. Voilà, et c'est ça, et c'est ça où ça coince. Et on doit songer à ça, on doit contempler ça, cette lumière, et dire si franchement, véritablement, sincèrement, je voyais s'ouvrir devant moi, dans ma maison, je suis dans mon salon, en train de contempler ma vie, la vie des autres et tout ça, ce monde. Soudain, il y a une lumière fantastique qui s'ouvre dans mon salon. Il y a cette image d'une porte qui ouvre et il y a un univers immense qui ouvre de l'autre côté de cette porte-là. Avec toutes sortes de couleurs fantastiques et de chants, etc. qui sortent de cette porte. Est-ce que je traverserai ce seuil? Est-ce que je laisserai absolument tout? Et s'il y a un petit brin de chagrin qui dit oui, mais enfin, mais qui va s'occuper d'eux?
Moi, je dirais qui va s'occuper de ma fille?
Oui, mais je veux vous rassurer tout de suite. Vous pouvez traverser le seuil de cette. Je peux vous rassurer tout de suite que ce n'est jamais, c'est très important de le dire, de le redire, ce n'est jamais une question de perdre le corps, c'est juste une question de perdre nos notions de nous-mêmes, des anciennes notions de nous-mêmes, et d'accepter une nouvelle identité. Mais Corinne va rester Corinne, Dominique va rester Dominique, Jean-Luc va rester Jean-Luc, c'est juste que toutes les associations que nous avons faites, nous vont disparaître. Et nous allons voir qu'au-delà de l'image de nos enfants, au-delà de l'image de différentes choses importantes de nos vies, il y a ce fond lumineux, ce fond d'étoiles, ce fond où chantent les anges à chaque instant. Et c'est ça qui devient plus important que les images que nous voyons dans ce monde, même si c'est les images de nos enfants, des choses que nous aimons le plus au monde, nous allons voir derrière, il y a une autre réalité. Et c'est cette vision de cette autre réalité qui va nous aider énormément à être mieux, à être encore plus aimant avec nos enfants et avec les autres, parce que nous allons apprendre à avoir moins peur pour eux. Nous avons peur d'abandonner nos enfants et de traverser le seuil de cette porte parce que nous pensons que nos enfants seront destitués, seront vulnérables dans une insécurité importante sans nous. Mais si nous rendions vraiment compte que derrière chacun de nos enfants, il y a cette fabuleuse porte juste devant eux, nous pouvons nous en souvenir que n'importe ce qui leur arrive, ils habitent dans l'éternité. Ils n'habitent pas dans ce monde, ils habitent dans l'éternité, dans ce monde éternel d'où nous venons tous. Donc, je veux vous rassurer que ce n'est jamais une question de perdre les repères de nos vies ici. Nous allons avoir nos enfants, nous allons garder, rien à l'extérieur va changer. Mais toute notre conception de ces personnes, de ces choses-là et de nous-mêmes dans cette vie ici va changer. Nous allons voir tout ceci dans un contexte infiniment plus grand, plus universel, plus cosmique, si j'ose dire, en regardant la véritable origine de ces choses-là, la véritable source de ces choses-là, et aussi le véritable destin de ces choses-là. Le destin de mes enfants n'est pas juste de grandir et de devenir des adultes responsables et en ayant des vies confortables. Ce n'est pas leur véritable destin. Ils vont là où nous allons. Et nous savons pour nous-mêmes, nous espérons plus pour nous-mêmes que juste une vie confortable. C'est pour ça que nous étudions ce livre. D'ailleurs, ce livre n'est pas fait pour les gens qui veulent une vie confortable.
C'est clair.
Si vous voulez une vie confortable, je vous conseille de poser ce livre tout de suite. Non, ce livre est fait pour les gens qui cherchent quelque chose au-delà de juste une vie confortable, mais une vie profondément enracinée dans une sorte de vérité qui dépasse les repères de cette vie ici. On cherche quelque chose de plus durable que juste les choses tellement éphémères que cette vie ici. Et nous espérons pareil à la fin pour nos enfants. Qu'ils vivent une longue, belle vie confortable, absolument, on le souhaite. Ouais. Mais qu'ils trouvent la même vérité que nous sommes en train de trouver. Et qu'ils soient rassurés que n'importe ce qui leur arrive dans cette vie ici, qu'ils sont toujours dans une sécurité parfaite. Ça vaut la peine. Ça, c'est vraiment un cadeau qui en vaut l'effort. Et plus nous arrivons à prendre ce cadeau pour nous-mêmes, à recevoir ce cadeau pour nous-mêmes et le rendre réel pour nous dans notre expérience, plus nous serons en mesure de refléter la véracité de le caractère authentique de cette vision pour nos enfants. Nous n'en avons même pas en parlé, ils vont le ressentir. Ils vont le ressentir par notre confiance béton en eux et dans leur vie et dans leur destin.
Moi, je voulais que tu nous parles, si tu peux, de la forme. Parce qu'on pense souvent que le pardon, ça doit être... J'ai pas d'exemple précis, mais notre ego, il nous propose toujours que le pardon doit prendre une certaine forme.
Oui.
Et en fait... Dans le chapitre du pardon, il dit qu'il faut laisser complètement la forme, c'est pas à nous, c'est-à-dire la forme que ça prend, parce qu'on se mélange parfois un peu de plans, c'est-à-dire que concrètement, on a décidé qu'il fallait que ça prenne une certaine forme, mais il faut abandonner aussi la forme qu'on peut imaginer que ça prenne le pardon.
Oui, oui, oui.
Ah, qu'est-ce que je dis ?
Ah oui, 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 je comprends bien, Corinne, oui. La tentation ici, c'est toujours de donner une importance à la forme, et c'est toujours une façon de garder la séparation réelle, de garder la distinction, la différence, mais surtout, c'est toujours une façon de garder des notions de culpabilité. Parce qu'on est en train d'estimer qu'une forme est bonne et l'autre n'est pas bonne, avec l'idée que voilà, on peut toujours critiquer, on peut toujours juger, etc. Et donc on est très très attaché à la forme ici, et souvent sans le vouloir, on peut mettre l'accent sur la forme. Et je dis vraiment sans forcément le vouloir, c'est parce que c'est une monde de forme, et nous une partie de nous souhaite vraiment que la forme soit réelle, que des choses distinctes puissent exister, une chose soit différente de l'autre. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, parce que nous pensons toujours, une partie de nous veut vivre dans le monde de forme. Donc c'est juste pour dire à quel point nous pouvons être inconsciemment attiré à vivre avec les formes et non pas avec le fond, et penser qu'il faut atteindre une certaine configuration de vie, une configuration d'expression, au lieu que ça devient, ça mute, ça se transforme, ça évolue pour devenir autre chose. Maintenant, ce que Corinne suggère, c'est que c'est plutôt le fond qui est important que la forme. Et bien sûr, c'est ce que le cours va vouloir nous apprendre. Si vous voulez approfondir cette idée-là, je vous suggère de lire le livret sur le chant de la prière. Le chant de la prière, c'est à peu près sur ça. C'est sur la forme. C'est-à-dire, quand nous commençons à prier, nous prions toujours pour les choses spécifiques. Après, nous apprenons, par exemple, je veux absolument régler mon histoire de logement. Il me faut, je prie pour un logement abordable et sain. Et voilà, quelques mois plus tard, j'ai exactement ce qu'il me faut. Je prie pour avoir plus de clients. Et c'est parce que dans un premier temps, j'ai besoin de je m'attache encore à la forme et je pense que mon bonheur est dans le monde de la forme. Après, une autre étape par la suite, c'est l'idée que je ne vais plus prier pour les choses dans la forme spécifique, mais je vais prier pour une forme de bien-être. Je prie pour la paix sur la planète. Je prie pour la guérison pour notre personne. J'ai une idée plus altruiste dans ma façon de prier. Mais même ça, à la fin, c'est dépassé par encore une autre forme de pardon, ce qui devient le véritable chant de la prière, là où je chante un chant d'amour à la source, et j'entends chanter en arrière-plan la réponse de cet amour qui est son chant de reconnaissance et d'amour pour moi. Et c'est là où la prière perd entièrement son idée de forme et devient juste une communication pure d'appréciation et de gratitude et d'amour entre toutes les parties, entre les deux parties, jusqu'à ce qu'il n'y a plus deux parties, mais juste en se fond dans ce chant. Dans une unique chant. Et bien sûr, vous pouvez relire ce magnifique passage qui s'appelle le chant oublié, qui rappelle cette métaphore, cette très très belle métaphore du chant. C-H-A-N-T. Maintenant, la forme du pardon, pour parler spécifiquement de quand, par exemple, il y a eu une petite dispute entre deux personnes ou une petite échaufferie ou autre. Et j'ai envie de démontrer que pour moi c'est passé, qu'il n'y a plus de jugement. J'ai accepté les différences entre nous sans rancune, sans regret, et que chacun puisse avoir son avis, sa façon de voir, sa façon de faire, et ça ne m'affecte pas. Et je permets sans jugement que l'autre soit différent de moi. Il n'y a pas de forme. On peut vraiment difficilement donner une forme à une quelconque résolution, une façon de montrer à une autre personne que voilà, j'ai atteint cet esprit authentique en moi. Ce sentiment, c'est authentique en moi. C'est ce que je ressens véritablement. C'est un manque de jugement de l'autre. C'est juste quelque chose, je dois être sincère avec moi-même pour faire sûr que c'est ce que je ressens. Et honnête avec moi-même. L'une des caractéristiques d'un enseignant du cours qu'on peut lire dans le manuel des enseignants, c'est honnêteté. Et honnêteté veut dire cohérence. Et veut dire cohérence. Je suis cohérent avec moi-même. Je ne me mens pas. Si je dis je n'ai pas de jugement, je veux savoir si c'est vrai pour moi. Je veux pas me leurrer. Je veux pas prétendre qu'il n'y a pas de jugement en moi envers les autres. C'est beaucoup parce que, et ça vaut la peine vraiment de d'insister dessus. Ce cours ne veut pas qu'on arrête de juger. Jésus sait qu'on va arrêter de juger à la fin. Parce qu'on aurait vu, on va voir qu'il n'y a aucune raison de juger. Mais il sait qu'on ne veut, tant qu'on ne l'a pas vu, on va juger de toute façon. Donc, il nous dit pas de ne pas juger. Il nous dit, par contre, de faire face au fait que nous jugeons, et de savoir pourquoi nous jugeons, et de savoir que nous n'avons jamais raison de juger. Ça, c'est trois choses impératives. Mais il ne nous demande jamais de ne pas juger, parce qu'il sait qu'on va, on va pas pouvoir. Il sait qu'on va arrêter naturellement de juger. Il n'y aura plus de jugement naturellement par la suite d'avoir pratiqué ces trois étapes, de faire face à mes jugements d'une façon la plus honnête possible. Et cette première étape nous fait faire face justement à cette grande nuage de culpabilité et de haine en nous. Alors, c'est pour ça qu'il insiste sur l'importance de voir, de voir, de voir, de voir, de regarder, de regarder, de regarder, d'observer, parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas vouloir à cause de cette nuage de culpabilité. Et c'est pour ça qu'il dit dans différentes leçons, ne t'inquiète pas, nous allons pouvoir traverser ces nuages, je te tiens par la main. Et une fois que nous commençons à regarder ces jugements, il faut savoir pourquoi nous jugeons. Nous jugeons parce que nous ne voulons pas être responsables pour notre condition intérieure. Nous voulons mettre notre condition intérieure sur le compte des autres. C'est pour ça que nous considérons qu'il y a un problème chez eux, dans leur façon de faire, ce n'était pas dans ma façon de faire. Je juge pour me débarrasser de ma culpabilité, mais c'est en moi le problème pour lequel je voudrais juger les autres et que j'ai tendance à juger les autres. Le problème est en moi, c'est pour ça que je juge de regarder l'effet, la conséquence pour moi de juger. Je ne me sens jamais bien quand je juge, je me sens mal quand je juge. Parce que le jugement, à la fin, est une attaque sur moi-même. C'est très important. Je dois savoir par la suite qu'un jugement n'est jamais justifié ni sur une autre personne, ni sur moi-même, parce qu'à la fin, nous sommes tous toujours les magnifiques enfants d'un Père aimant et sublime qui nous aime profondément. N'importe ce que les autres ont fait, n'importe ce que nous avons fait, nous sommes toujours tous ce que nous avons toujours été. Cet magnifique esprit de Christ, pas dans la forme de ce monde ici, et pas dans la forme de ce que nous avons fait, pas dans la forme de ce qu'ils ont fait peut-être, hein, mais dans le fond, dans une arrière-partie de leur esprit, dans une arrière-partie de notre esprit. Nous sommes toujours cet magnifique esprit de Christ. Plus j'arrive à ressentir le caractère vrai de ces idées et d'accepter quelque part, malgré moi, qu'il y a un amour qui nous aime malgré ce que nous avons fait, plus j'ouvre une porte dans mon esprit par laquelle je passe de plus en plus souvent et je récolte ce don d'un esprit apaisé, d'un esprit plus allégé de ce fardeau lourd de jugement qu'implique le jugement forcément. Donc ça c'est les différentes étapes pour faire sûr quand je pardonne, ce n'est pas la forme, c'est le fond, et pour faire sûr que je suis juste, je suis cohérent et je suis honnête dans la forme, dans le fond. Je dois balayer ces trois étapes très vite. Est-ce que j'ai fait face? Est-ce que je suis comme l'autre? Un principe d'universalité, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je sais pourquoi j'ai jugé et j'ai une tendance à juger? Est-ce que je sais que j'ai forcément tort? Est-ce que je sais tout ça? Et à ce moment-là, je peux dire que je pardonne parce que je vois à quel point nous sommes tous dans l'erreur. Je suis dans l'erreur, l'autre est dans l'erreur. Je peux pardonner quand j'ai vu à quel point moi je suis dans l'erreur et je fais la même erreur que l'autre. Principe d'universalité. Et la dernière chose, c'est de savoir que je vais échouer, même dans ce processus, je vais échouer et je vais juger quand même. Et à ce moment-là, mais c'est à ce point-là que c'est à ce point-là que Jésus, cette présence d'amour, nous aime. Et il sait qu'on va faire, il sait qu'on va échouer. Et il nous dit, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave parce que il a dit et qu'il dirait, si tu étais des êtres parfaits, si vous étiez des êtres parfaits, vous n'auriez même pas besoin de secours. Alors, ne vous prenez pas pour les êtres parfaits. Ne prétendez pas d'être des êtres parfaits. Il n'y a pas de risque, c'est ça?
On veut pas de ce titre.
Oui. Après, on s'est dit, ah non, mais je me mets même jamais sur une pédestal. Quand on voit à quel niveau il met la barre. Ah, j'ai dit, non, mais arrête. Je recule tout de suite. J'ai dit, j'y suis pas encore. Hein, parce que j'ai connu qu'une personne que je pourrais dire, il y était, et c'était Kenneth Wapnick. Mais c'était juste le fait, pour moi, de regarder cet être s'entretenir avec d'autres personnes, parler avec d'autres personnes. Je savais qu'il y avait une différence chez lui que je n'avais jamais vue chez d'autres personnes. Et j'étais scotché, mais encore, ce n'était pas la forme de ce qu'il faisait, ce qu'il disait qui me scotchait. C'était quelque chose, c'était indécible, c'est ça?
Indicible.
Qui, où tu ressens quelque chose dans le fond, comme tu dis Corinne, pas dans la forme, et où il tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, son attitude, sa façon d'être avec la personne venait d'un autre endroit que moi je dirais n'était plus humain. Et parce que moi je ne l'ai jamais vu chez un être humain. Pour moi, chez un être humain, il y a toujours quelque part un arrière-plan, une sorte d'investissement ou une sorte d'envie ou de désir de voir que ce qu'il dit est soit accepté par l'autre personne, soit approuvé ou fait du par l'autre personne ou fait du bien, qu'il y a une réaction. Et lui, absolument rien. Il disait ce qu'il disait. Et ceux qui disaient, ils s'en fichaient de ce qu'ils disaient dans un sens. Ils n'attendaient pas ça, parce que ceux qui communiquaient vraiment venaient du cœur. Et sur ce plan-là, le don était déjà accepté. Le simple fait que la personne restait pour discuter avec lui, c'était déjà accepté. Alors qu'il soit d'accord avec ses mots ou non, ça n'avait aucune importance. Ce qu'il voulait que l'autre personne accepte, c'était une transmission sur un autre plan et pas du tout sur le plan du mental. On a du travail.
Ouais. C'est le vrai enseignement.
L'enseignant parfait.
Oui, le simple fait que vous ressentez la justesse de ça veut dire qu'il a déjà communiqué avec vous cette idée-là, voilà. Et vous le ressentez dans votre lecture du cours, vous savez que c'est possible, c'est notre but. Et le simple fait que vous savez que c'est possible vous donne envie d'y être, d'être comme ça.
C'est ce qui guide, hein. C'est ce qui nous guide.
Voilà,
parce qu'on reconnaît que c'est vrai, sinon, oui, on se dirait c'est impossible, mais oui, parce qu'on reconnaît que c'est juste, on y va, quoi.
On
continue.
Et soyez rassurés en même temps que nous y serons et nous y sommes quand même de temps en temps. On n'est pas que, voilà, les êtres, on connaît tous ces moments de faire abstraction de la réaction de l'autre et on est dans une envie simplement d'aimer l'autre personne. On s'en fout dans un sens s'ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. On n'est plus là vraiment pour convaincre l'autre personne de l'incroyable justesse de notre intellect et tout ça. Non, à un moment, on peut tomber dans cet esprit où on s'en fout, on veut juste transmettre à l'autre personne qu'on les apprécie profondément tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de changer. Voilà. Donc, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on a fait une percée vers cet magnifique esprit. On y sommes très souvent quand même. Donc, c'est certainement pas une question de penser que la barre est tellement haute qu'on n'y sera jamais. Non, en fait, très souvent, même dans la même journée, on y est périodiquement, de temps en temps. Ouais. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Et la seule chose qui nous empêche, c'est juste un peu de peur. Et que aussi une petite envie de garder sur dans une partie de notre esprit une idée que peut-être finalement il y a une différence entre nous, il y a une différence entre lui et moi, peut-être il fait pas aussi bien que je pense, peut-être il peut faire mieux, etc. Je me valorise un peu avec cette différence, ou peut-être je me suis descendu. On perd un peu cette magnifique vision qu'a cette source d'amour de nous, qui a cette source d'amour de nous. On perd un peu, et après on lit quelques passages du cours, et puis on se dit bah tiens, tout n'est pas si mauvais, et je peux y être plus systématiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être spécifiques?
Une question, Jean-Luc?
Oui. Si la réponse intéresse tout le monde, je suis d'accord. Autrement, ben, ça, c'est pas grave. Parce que j'en ai pas parlé avant avec mes charmantes collègues. Le plus grand commandement de Jésus est aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez. Comme tu t'aimes toi-même. Et là, ça bug bien, bien, bien. Alors, est-ce qu'il y a une réponse courte dans le cours quelque part que je ne connais pas encore? Parce que j'ai une réponse, mais c'est l'ego qui a répondu, oui. Je me suis aimé pendant longtemps comme un pauvre CON à prendre les plus grosses parts de gâteau, où j'étais avec mes enfants ou ceci ou cela. Mais m'aimer moi, je peux pas. Ça même, il y a des larmes qui roulent toutes seules sur les joues parce que ça ne peut pas.
C'est laquelle la partie de cette idée là qui te, quand tu dis ça passe pas, qu'est-ce qui te fait pleurer?
Ben, c'est que comme soi-même, mais pour pouvoir aimer les autres comme soi-même, il faut d'abord s'aimer soi, et je ne m'aime pas. Je suis désolé de cette pathologie qui est douloureuse.
Ok, d'accord.
À part avoir pris pendant des décennies les plus grosses parts de gâteau, le verre de vin le plus rempli, etc. Mais ça, c'est nul, c'est l'ego.
D'accord. Ok.
Est-ce que la question intéresse tout le monde, au fait?
Oui, 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 bien sûr.
Parce que non, mais bien sûr.
Oui, oui.
Je
ne
suis pas sûr. Donc, tout le monde.
Si, on se comprend de tout.
Je peux donner une réponse, mais la réponse va sembler. Il va falloir qu'on apprenne tous avec cette réponse encore un peu de temps. La haine pour soi, bien sûr, ça ne vient pas de notre partie, la partie juste de notre esprit, ça vient de notre ego, parce qu'il n'y a que l'ego qui peut haïr. Il n'y a aucune modestie, il n'y a aucune humilité à se détester. Voilà, on peut. Il y a plutôt un genre d'arrogance à se détester. Parce que quand je me déteste, quand je me juge, je suis en train de dire que c'est moi le juge. Je suis capable de juger, je me donne raison, je me donne le droit de juger, et j'ai décidé sur mon sort, et j'ai décidé en tant que grand juge que je suis détestable. J'ai décidé que je ne suis pas aimable, je suis détestable. Donc d'un côté, il y a une part d'arrogance, c'est l'arrogance de l'ego qui se met encore pour l'xième fois sur le trône du Créateur, qui dit que le Créateur n'est plus le juge, c'est moi le juge, c'est moi le Créateur. Et je peux décider entre ceux qui sont aimables et ceux qui sont détestables. Je me mets moi-même dans le camp de ceux qui sont détestables et qui ne sont pas aimables. Mais c'est moi en tant que grand juge qui a décidé. Donc tout d'abord, je dois commencer à reculer devant l'envie d'être ce grand juge qui peut prétendre à juger, à avoir la capacité de juger. Et je dois voir que quand je me juge et quand je me déteste, que je suis en train d'assumer un rôle que je ne peux pas avoir. Mais tellement une partie de moi veut penser qu'il a le pouvoir, la capacité de juger, qu'il assume cette fonction, même sans avoir demandé s'il peut vraiment le mener correctement. Il ne peut pas, bien sûr. Mais il ne se pose même pas la question, il fait, et il juge, et il condamne. Aucun problème. Ouais. Condamner, c'est le sang qui coule dans les veines de l'ego. Là, il y a aucun problème, ne demande certainement pas à l'ego d'aimer qui que ce soit. Il sait que haïr et détester et exclure. Maintenant, pour pouvoir, quand Jésus parle de cette idée-là, l'amour pour soi ne peut pas venir de soi-même, donc on ne peut pas s'aimer soi-même. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre sur une présence qui nous aime. C'est parce que la partie de nous qui demande d'être aimée est déjà, se sent déjà séparée de l'amour. Alors, il ne peut pas se donner un amour dont il s'est séparé. Il faut qu'il s'adresse à une présence d'amour pour pouvoir avoir une chance de ressentir à nouveau l'amour. Et quand il s'adresse à cette présence d'amour, cette demande se fait avec une condition. Il faut absolument, juste pour un instant, il faut avoir envie d'avoir tort à son sujet. Il faut avoir envie, ne serait-ce que pour un instant, d'avoir tort à son sujet, que peut-être je ne suis pas ce que j'ai toujours pensé être. Peut-être je ne suis pas ce que j'ai toujours pensé être. Peut-être. Peut-être que je suis, mais peut-être que non. Et il faut que j'entretienne, ne serait-ce qu'un instant, la possibilité d'avoir eu tort toutes ces années et de laisser s'ouvrir tout gentiment, tout doucement, petit à petit, une porte en moi, d'où je vois sortir une lumière douce et apaisante. Et de l'autre côté de cette porte, il y a une présence qui veut m'accueillir, qui veut s'entretenir avec moi, qui veut que je vienne auprès d'elle, et qui veut me rassurer que n'importe ce que je pense avoir été, n'importe ce que je pense que je suis, n'importe ce que je pense être et avoir fait, ma pureté sur un certain plan qui est peut-être toujours dissimulé ou occulté pour moi, mais qui est réel néanmoins, sur un certain plan, ma pureté et ma sainteté sont toujours absolument intactes. Et mon amabilité est absolument garantie et parfaite et ne peut pas être détruite. Ça vaut la peine de relire la leçon 93. J'ai fait une présentation sur ça l'autre soir. Le 20 novembre, j'ai fait une présentation sur la leçon 93 que je pense tellement, tellement importante. Parce que c'est tellement clair dans cette leçon qu'on va devoir abandonner le droit de déterminer notre propre qualité. On va devoir accepter une autre autorité et une autre présence dans notre vie pour pouvoir savoir ce que nous sommes. Et la chose fâcheuse dans toute cette histoire-là, c'est justement cette question d'autorité. Il y a une sorte de bataille d'autorité qui est en train d'être menée par mon ego. Mon ego insiste d'avoir l'autorité dans ma vie. Et il regarde vers l'amour. Et il sait très bien le jugement de l'amour sur moi. Il sait très bien. Le problème, c'est que pour pouvoir accepter le jugement de l'amour, il faut qu'il donne autorité à l'amour sur sa vie. Et ça, il ne supporte pas. Donc, il dit à l'amour, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous complètement. C'est moi le boss, c'est moi le chef ici. Et moi, je sais exactement ce que c'est, cette personne-là. Je sais exactement comment il est. Et je t'interdis de passer là où moi j'y suis venu d'abord. C'est mon territoire, c'est mon territoire, mon territoire ici, c'est mon domaine. Tu vas pas empiétiner sur mon domaine, mon royaume. J'étais déterminé que ici, sur ces terrains-là, il n'y a qu'un être pitoyable, minable et méprisable. Et je regarde en direction de l'amour et je dis, prends ça. J'ai dit, qui a raison maintenant? Et voilà d'où vient mon insistance sur mon côté méprisable et mon manque de mérite d'amour, de mon indignité. Ça vient de la partie de moi qui regarde avec défiance en direction de l'amour et qui dit, c'est moi le plus fort ici. Est-ce que tu penses réellement que tu vas pouvoir venir ici avec ton halo et tes ailes d'ange et tout ça? Tu penses que tu peux voler comme ça ici et venir attirer dans ma vie et soudain avec ta sainteté tu peux dire celui-là il fait partie des enfants bien aimés de Dieu? Ben non, je te permettrai pas, je te laisse pas faire. C'est ça notre ego. Qui veut tellement qu'on reste à se détester et qui croit qu'il peut nous garder emprisonnés dans ses concepts de haine de soi. Et qu'il insiste et qui dit, tous les autres, toutes les autres personnes sur la planète, aucun problème Jésus, tu peux les aimer. Autant tu veux, mais celui-là je garde pour moi. Et de toute façon, je sais mieux que toi. Les autres, oui, bah, c'est vrai, je les ai jugés. Mais je sais que toi, tu es le grand cœur et tout ça, tu peux les aimer si tu veux. Moi je ne vais pas dire pour eux. Mais par contre, celui-là, je sais qu'il n'est pas aimable. C'est pour ça que tout le monde est capable de regarder vers Jésus et lire tous ces magnifiques mots et dire, ça ne s'applique pas à moi. Il ne peut pas me connaître, il ne me connaît pas. Il ne m'a pas assez vu, il ne sait pas tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est une défense. Parce que quand on approche l'amour, quand on va vers l'amour, on sait qu'on va devoir abandonner notre autorité sur nous-mêmes. On doit apprendre à avoir tort. C'est un apprentissage d'apprendre à avoir tort. C'est un vrai apprentissage. On a tort déjà pour plein de choses, mais à la base, on a tort sur notre concept de nous-mêmes, qui est un concept de mépris, d'abandon, de haine. On a premièrement tort par rapport à notre propre être. Le problème, c'est qu'on a une position, on a pris position, et maintenant, on se donne raison. Malgré tous les témoignages dans ce livre de notre véritable réalité. Donc, on apprend. Je vous lance ce défi-là. De commencer à vouloir avoir tort de temps en temps, un peu, par rapport à votre qualité. Possibilité que peut-être vous avez eu tort toute votre vie, qu'au fond de vous, oui, vous pensez et vous avez pensé être un être tellement indigne et méprisable, et que peut-être tout ce temps-là, vous avez été un enfant tellement aimé et choyé, c'est ça?
Oui, ça.
Tellement apprécié, avec toute l'approbation de ton frère et de ton parent céleste. Qu'ils ont attendu qu'une chose, c'est que vous acceptez leur amour au lieu d'insister que vous ne le méritez pas. Ça c'est...
Vrai.
Ouais.
Ah oui.
Donc il y a inconsciemment dans la haine pour soi, inconsciemment, il y a une partie de nous qui ne veut pas relâcher. Ouais.
On le sent tout ce que tu as dit. On le sent de diverses façons, à divers moments, ce que tu dis. On rigole parce qu'on sait tellement que c'est vrai, parce qu'on voit bien que on se voit bien dans ce genre de comportement et dans ce genre de pensée. Enfin, moi, tout ce que tu me dis, je vois plein de facettes de moi à différents moments. Quoi. C'est impressionnant. Ouais.
Ben là, c'est le caractère universel de tout ce travail. Ben écoute, je crois que ça y est ailleurs pour cet après-midi déjà.
Merci beaucoup.
Super.
D'accord, ok. Merci à vous tous.
Merci. Et merci beaucoup.
On se dit à bientôt.
Oui, à très vite.
Ouais. Ok, à bientôt.
Merci. Bye. Au revoir. Merci bien.